Salut à tous et bienvenue sur Original Sound Bloggers, le troisième épisode. Ça y est, déjà le troisième. On s'excuse pour le retard dû à des incompatibilités d'emploi du temps, hein. Ça arrive à tout le monde, enfin, surtout à ceux qui ont une vie. Troisième épisode, toujours en compagnie de mes confrères Onink et Mr. Roxy95. Ça va toujours les gars?
Oui,
ça va, ça va.
Très bien.
Ça va, pas trop gavé à Pâques pour avec les chocolats, avec la cloche?
Bon, tu verrais ma tête, tu prendrais peur, je pense, mais...
Alors, vous entendez en fond le thème de palais de Zelda 2, et vous pourrez donc deviner que ce podcast aura pour thème les musiques de donjons, un thème qui nous a été soufflé par notre première invitée. On peut l'applaudir comme il se doit, car il ouvre le
terre
des invités. Il s'agit de Snake in the Box. Comment ça va, mon cher ami Snake?
Ça va, merci à vous de m'avoir invité, et de surtout m'avoir laissé choisir le sujet de ce podcast.
Y a pas de souci. Donc un podcast, on l'a dit, sur les thèmes de donjons, et en particulier dans cette première partie sur les thèmes de donjons de Zelda, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de très intéressants surtout. Et donc au-delà du thème de Zelda 2 qu'on entend en fond, on va diffuser une première musique qui est le thème de donjon principal du premier Legend of Zelda, le tout premier, sorti en 87 en France, en 86 au Japon. Troisième jeu le plus vendu de la série quand même, hein, derrière Ocarina of Time et Twilight Princess, avec 6,76 millions d'exemplaires vendus. Donc on y retrouve déjà pas mal de codes de la série, hein, les boss comme Ganon, Goma, Dodongo, les personnages, et le compositeur Koji Kondo évidemment. Les gars, vous, le premier Zelda, le tout premier, est-ce que vous y avez joué ou pas? Ou est-ce que vous faites style, ouais, je suis trop jeune, j'y ai pas joué?
Non, moi j'y ai joué début des années 90 chez un cousin qui avait le jeu, la cartouche dorée et la carte qui était incluse dans la boîte et qui nous permettait de nous repérer dans Hyrule, avec bien évidemment les textes en anglais que nous étions incapables de déchiffrer du haut de nos 8 ans. Hein. It's dangerous to take alone, take this. Je ne comprenais absolument pas ce que me disait le mec, le vieux au début dans cette grotte, je savais juste qu'il fallait chercher l'épée là-bas.
On peut aussi peut-être dire un fait assez intéressant sur les jeux actuels, c'est que bon, il y a un jeu dont on a parlé le mois dernier qui s'appelle The Binding of Isaac et qui s'inspire énormément de ce premier Zelda sur pas mal d'aspects comme les maps, certains boss, certains ennemis.
Et la structure des donjons qui
vraiment la même, ouais. Même le plan à l'intérieur de The Binding of Isaac reprend le plan qui se crée au fur et à mesure dans
le HUD, un peu similaire, ouais. Effectivement. Et donc, premier thème de donjon de The Legend of Zelda, le tout premier de l'histoire, il y a 25 ans déjà. On l'écoute tout de suite et on revient juste après. Vous êtes toujours sur OSB, Original Sound Bloggers, troisième épisode. Vous venez d'écouter le thème de donjon du premier Legend of Zelda, sorti donc en 86, on le rappelle. Un thème composé par Koji Kondo. On sent bien quand même la patte de Koji Kondo, et pourtant c'est un thème qui n'a pas été très réutilisé.
Mais par contre, dans l'ensemble de l'OST de Zelda 1, il y a plein de morceaux qui ont été réutilisés, comme le thème principal, le thème d'effet, ou les petits jingles...
Ça c'est sûr, et justement bah, par rapport à ça, je vais revenir sur un petit truc sur Zelda 2, c'est que la musique de Zelda 2, elle n'a pas été composée par Kondo justement, ça a été composé par Akito Nakatsuka, et en fait c'est un des seuls épisodes dont les musiques n'ont pas été reprises par la suite, contrairement aux autres. La seule fois où ça a été repris, c'est dans Super Smash Bros, donc un jeu qui reprend à peu près 40 500 musiques de tous les autres épisodes, et en plus c'est un mec qui est complètement oublié, il a fait juste Punch Out et Excite Bite après...
Ouais, bon,
c'est quand même pas dégueu niveau cursus, c'est bon.
Ouais, enfin bon, c'est des BO absolument marquantes, tu vois, j'écoute souvent la BO. Oh, c'est super sexy.
La BO de Punch Out est super intéressante par contre. Une reprise de la Marseillaise en début absolument formidable.
Bon, on va continuer, messieurs, sur ces musiques de Zelda. On entend en fond un Zelda qui a été un peu controversé, on va dire, un très très bon jeu, mais très différent de d'autres Zelda, c'est Majora's Mask, le deuxième de Nintendo 64. On entend la musique du Stone Tower Temple en fond, le quatrième temple, si je dis pas de bêtises. Majora's Mask, ça vous inspire quoi, vous, messieurs ?
Ça m'inspire un truc très bizarre.
Effectivement.
Ça m'inspire un truc très bizarre auquel j'ai pas joué, mais que j'aimerais bien faire, et que j'aimerais bien qu'il nous fasse un remake, parce que tout le monde le réclame, et moi ça m'intrigue aussi. Mais ça m'inspire surtout un univers complètement barré, et qui a l'air vachement intéressant.
Bah c'est sûr qu'il mérite un remake, hein. C'est vraiment un Zelda intéressant à plus d'un titre, original, avec des mécaniques de gameplay intéressantes au niveau des masques, ou la mécanique du retour dans le temps, qui peut être un peu relou, surtout dans l'obtention de certains objets.
C'est très relou, surtout que voilà, ça en fait un jeu que sans Solus, il est vraiment très 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 difficile à finir. Moi c'est vrai que je l'ai fait, du coup je devais avoir à peu près une douzaine d'années, peut-être 12-13, et je me souviens très bien que à chaque demi-heure de jeu, j'ouvrais les Solus pour me dire, bon alors, le mec il me dit qu'à 18h il faut que je sois à tel endroit avec le masque du renard, sinon ça marche pas. Et après, le gars à la laverie me dit d'aller le lundi à 11h apporter des fleurs à telle meuf qui se trouve dans telle montagne. Et à 15h, il faut que je rentre dans tel palais, sinon à 16h, ça marche plus. Bon. Et sans ça, on peut pas avoir le dernier masque qui permet de buter le boss de fin.
Et donc, t'as perdu.
Donc, c'est décourageant, surtout à 12 ans.
C'est ça. On entend donc cette très belle musique, une BO très particulière pour un Zelda d'ailleurs, une musique un peu sombre, un peu... très différente des Zelda habituels.
Mélancolique, hein.
C'est très mélancolique. Et on va passer à un Zelda beaucoup plus récent, puisqu'il s'agit du dernier en date, sorti en 2011, Skyward Sword. Un Skyward Sword qui fait pas forcément l'unanimité entre nous déjà, je crois.
Ben moi j'ai pas joué, mais par contre la BO est géniale.
La BO est géniale, c'est vrai.
La BO n'a pas été composée par Koji Kondo, hein. C'est Hajime Wakai qui je crois que c'est la première fois qu'il bosse pour un Zelda, mais c'est vrai qu'il s'en sort super bien.
Dis pas ça, il a fait aussi, il a bossé sur Twilight Princess aussi, enfin,
Autant pour moi.
Il a fait des épisodes portables, parce que, en fait, Nintendo, il valorise que Koji Kondo en compositeur, mais en fait, ils ont toute une armée d'inconnus qui ont travaillé sur les autres Zelda, et ils n'ont jamais, quoi. Et c'est des mecs, t'as trois renseignements sur eux sur internet, alors que c'est des gars qui ont fait un boulot juste monstrueux, quoi, sur tous les jeux Nintendo, et Wakai en fait partie. Voilà. Et bah moi la BO de Skyward, je l'ai trouvé vachement diversifié par rapport aux autres. Il y a pas mal de thèmes à influence musique du monde, et moi j'ai trouvé ça vachement sympa. Je sais pas si je suis le seul à avoir ressenti là, mais...
Non, c'est vrai que c'est un peu comme ça, vu que le monde de Skyward Sword est vraiment coupé en trois niveaux qui ont vraiment une identité propre, alors que les anciens mondes de Zelda étaient plus homogènes. C'est vrai que ça se voit aussi dans la musique, où elles sont beaucoup plus diversifiées et tranchées entre elles, je dirais, suivant leur niveau.
Et justement, donc là, on va écouter un thème d'un de ces temples des trois niveaux, le thème du temple de la contemplation, premier donjon du jeu, un peu assimilable au temple de la forêt dans d'autres Zelda, un thème qui s'appelle Skyview Temple. Donc, je vous propose de l'écouter et on en reparle un petit peu après. À tout de suite.
Thank you.
Zelda Skyward Sword, donc le thème du temple de la contemplation sur OSB. On est toujours en compagnie de Link, de Mr. Roxy95 et de Snake in the Box, notre invité. Pour parler, allez, on va sortir un petit peu des Zelda, parce que les Zelda, il y en a beaucoup, on va peut-être pas faire tout le podcast sur Zelda. On va parler de manière plus générale des donjons, mais des donjons dans l'appellation japonaise du truc. Hein, on va dire, c'est plutôt des phases de jeu dans lesquelles on va entrer dans des endroits un petit peu sombres et... un petit peu, on va partir à l'exploration de ces endroits, de ces grands châteaux.
Pas forcément, on en reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est pour la distinction entre le dungeon crawler occidental et japonais. Mais il y a des dungeon crawlers japonais qui se passent dans des forêts, par exemple.
Donc là, alors, je pense pas que celui-là se passe dans une forêt, mais on entend en musique de fond Shining in the Darkness, un RPG sorti sur Mega Drive en 91. Un thème qui s'appelle Lower Labyrinth, si je prononce bien, je sais pas, je parle pas forcément bien anglais. Moi personnellement, je connais pas du tout ce jeu, vous, et il vous parle pas.
Ouais, sans y avoir joué, je sais au moins que c'est un dungeon crawler à l'ancienne, c'est-à-dire avec la vue subjective, les personnages qu'on ne voit pas à l'écran, parce qu'on est censé les interpréter vraiment, avec une interface assez austère, avec trois cadres pour chacun des personnages qui reprennent un peu les feuilles de perso des jeux de rôle papier avec les indications chiffrées de vie, de magie, de niveau, ce genre de choses. Et cette progression au pas par pas, vraiment assez hachée presque.
D'ailleurs, c'est assez bizarre qu'on connaisse pas trop ce jeu parce que c'est quand même le premier de la série de Shining qui compte aujourd'hui une bonne vingtaine de titres.
Mmh. C'est ça. Normalement, ceux qui sont fans de Shining Force peuvent connaître Shining in the Darkness. Ça fait partie de la même famille.
On va continuer dans les RPG ou action RPG japonais. Illusion of Time maintenant. Parlons d'Illusion of Time puisque c'est le prochain titre qu'on va diffuser est sorti de ce jeu. Un action RPG sorti en 93 au Japon puis en 95 en Europe sur Super Nintendo. Donc c'est le deuxième jeu de la trilogie officieuse de Soul Blazer. Hein, Soul Blazer, Illusion of Time et Terranigma. Officieuse puisqu'on ne sait pas trop si c'est vraiment les mêmes... Enfin, c'est un peu les mêmes HUD, c'est un peu les mêmes types d'histoires, oui. C'est un peu les mêmes univers.
Il n'y a pas de connexion logique entre eux. Ouais.
C'est ça. Et vous, c'est une trilogie qui vous parle ?
Moi, j'ai eu Illusion of Time. Je ne connais pas les deux autres jeux. Je pense même que Illusion of Time, c'est le dernier jeu que j'ai eu sur la Super NES. D'ailleurs, vu la date, 93, elle a même 95 en France. Donc la PlayStation était déjà sortie depuis un petit moment. Et c'est un jeu que j'ai pris, avec lequel j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer. Parce qu'il a vraiment une ambiance vraiment à lui. C'est un jeu très coloré, beaucoup plus qu'un Zelda, qui, même qu'un Final Fantasy VI au niveau des sprites, au niveau des décors. Ouais, ouais. C'est vraiment de bons souvenirs. Ouais.
C'est très coloré et surtout c'est un jeu qui est très très philosophique en fin de compte, qui se déroule dans un monde qui est très très similaire au nôtre, hein, qui est quasiment identique au nôtre. C'est une carte du monde où on voit clairement l'Amérique du Sud, où on voit clairement... On va se balader sur la Grande Muraille de Chine, on va se balader dans les pyramides d'Égypte. Et là, en l'occurrence, on a diffusé le thème d'Angkor Wat, qui est le temple cambodgien qui existe donc vraiment au Cambodge. Et qu'on peut explorer donc dans Illusion of Time. Et c'est un jeu qui est plein de poésie. Il y a une histoire de trafic d'esclaves au milieu. Bon, pour ceux qui n'ont pas joué, en tout cas, voilà, ça mérite le coup d'œil et d'aller peut-être y jouer. Un jeu qui s'appelle Illusion of Gaia Outre-Atlantique, donc si vous cherchez des musiques Illusion of Time, peut-être taper Illusion of Gaia, ça marchera mieux. Voilà. Donc voilà, c'est un jeu qui a été très très inspiré par tout type de mythologie, il y a plein de personnages qui existent pour de vrai, il y a Franz Kafka qui fait une apparition, il y a plein de dieux qui font leur apparition, des œuvres littéraires, etc., etc. Alors, la musique a été composée par Yasuhiro Kawasaki, qui a fait de très très grands titres à part Illusion of Time, hein, puisque c'est le compositeur de Cooking Mama.
Ah, c'est pas rien.
C'est pas rien.
Je ne connais pas cette série.
Et donc voilà, bah écoutez, vu qu'il a fait quasiment que Illusion of Time en jeu connu, on va écouter le thème d'Angkor Wat, et on en reparle peut-être un petit peu après.
Comment tu as cassé le mythe du compositeur d'un coup, là? Thank you.
ambiance asiatique, cambodgienne et tout ce que vous voulez dans ce coin-là pour donc cette musique d'Angkor Wat, issue dite du Dungeon of Time. Une musique qui, est, bah, qui paraît très très asiatique, beaucoup de sonorités orientales, limite arabes par moment. On va écouter désormais en musique de fond un morceau d'un Dragon Quest. Dragon Quest 8, l'Odyssée du Roi Maudit de son nom entier, sorti sur PS2 au Japon et en 2004, puis en France en 2006. Un thème qui s'appelle Mysterious Tower. Qui est le mieux placé pour en parler parmi nous? Je ne sais pas.
Je crois que c'est moi.
Alors, je crois aussi, parce que c'est pas comme si tu avais fait un article dessus.
Ouais, ouais, je l'ai fini il y a pas très longtemps, donc je peux en parler. Donc Dragon Quest VIII, bah, ça vous le savez, c'est un RPG ultra classique, très, très archaïque au niveau du système de combat ou même du système d'évolution. Mais personnellement, j'ai vraiment adhéré. J'ai été transporté par cet univers haut en couleur, avec beaucoup d'humour. Bon, même si ça vole pas très haut.
Avec les zones les plus vides de l'univers.
C'est vrai, c'est vrai. Mais... la composante exploration est très présente, même si c'est vrai que c'est un peu vide. Il y a juste des coffres et des grandes zones qui se ressemblent un peu toutes d'ailleurs. C'est souvent des prairies verdoyantes. Moi j'ai bien aimé et il faut vraiment faut du temps par contre pour se lancer dedans. Ça m'a pris quand même plus de 100 heures pour le finir. Sans les quêtes annexes. Hein.
Oula. Donc 90 heures de leveling, j'ai l'impression.
Ouais, beaucoup de leveling. Surtout au début, t'as des donjons qui sont assez durs à passer.
Les Dracoé, c'est vraiment des jeux où il y aurait du colossal, quoi. Enfin, là, je suis en train de commencer le 9, justement, et je suis allé voir un peu sur les sites les durées de vie qu'ils mettent. Et tu vois, généralement, c'est histoire principale 70 heures. Après, complétiste 150 heures. Le plus long, le mec, il s'est marqué 250 heures. Tu vois, enfin, c'est un truc de fou, quoi.
Musique de Koichi Sugiyama ou Sugiyama. Je crois que Victor, t'étais tombé totalement amoureux de Sugiyama, tu me disais.
Ah ouais, ouais. Bah là, justement, bah, en commençant le 9, là, c'est vrai que ce mec-là a des thèmes qui sont assez impressionnants. Et puis, même pour des tout petits villages, je suis allé écouter un peu ce qu'il avait fait au niveau symphonique. Et c'est juste à tomber, quoi.
Enfin, moi j'écoute beaucoup celle de Dragon Quest 5, je sais pas si c'est lui ou pas, mais.
Si, il a fait
tout. Je pense que c'est lui, ouais.
Bon, bah, j'écoute beaucoup celle du 5, et c'est vrai qu'elle est vraiment magnifique.
Pour finir sur Dragon Quest 8, la version européenne a la chance d'avoir les musiques en version totalement orchestrale, donc c'est vraiment un bonheur.
Juste pour la petite anecdote par rapport à la série, c'est quand même. Dragon Quest, c'est quand même le seul jeu qui fait patienter les. Qui fait camper les gens devant les magasins de jeux. Je sais pas si vous avez suivi ça.
Ah non,
au Japon.
Le bouquin Florent Gorge, comme ça, il disait que pendant la sortie d'un Dragon Quest sur NES, je sais plus lequel c'est, bah les mecs sont allés faire la queue la nuit devant les magasins.
Il y avait même eu à l'époque une loi qui interdisait la sortie d'un Dragon Quest pendant la semaine, pour éviter justement que les gamins ne sèchent l'école, puisque le cas s'était présenté pour
Dragon Quest
2 ou 3, je crois. Ouais, voilà, ouais, pas que les gamins aussi, les salariés aussi. Et je crois que c'était pour le 3 d'ailleurs qu'on avait essayé d'empêcher que ça sorte en pleine semaine pour qu'il n'y ait pas un taux d'absentéisme trop critique à l'école.
Ouais, ça montre le phénomène que c'est au Japon, parce que nous on considère ça comme un bon jeu, un très beau RPG, mais là-bas c'est une religion. C'est ça, ouais.
Donc voilà pour Dragon Quest VIII, parlons maintenant de Chrono Trigger, un autre RPG japonais assez fameux. Donc, qui a joué à Chrono Trigger par ici?
Moi je l'ai commencé à une époque.
Il est en cours.
Voilà, il est en cours, ouais.
Il est en cours, un pote qui me l'a prêté sur DS. Les musiques sont géniales là aussi, hein. C'est vraiment... déjà, c'est assez dingue ce que ce jeu arrive à faire avec quelques pixels.
Ouais.
Enfin, c'est super beau.
Ouais, ouais. C'est vrai que c'est un jeu qui paraît comme ça très, quand on regarde de près en fait c'est assez carré, c'est assez pixelisé, mais c'est très joli, c'est très coloré,
super expressif, ouais.
C'est vrai que l'univers est juste splendide en plus.
Et pourtant je déteste le style d'Ultoriyama, hein, mais vraiment je trouve que Chrono Trigger c'est vraiment un jeu qui est magnifique. Et puis les
avec FF6, ça doit être un des jeux les plus beaux je pense de la Super Nintendo.
Il y a des chances.
Ouais,
il y a des chances. Voilà, donc on l'a dit, des musiques absolument splendides. Notamment le thème de robot qui est quasiment un copier-coller de Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Et donc non, on va quand même pas vous rickroller sur ce podcast, on va diffuser un thème de donjon, hein, puisqu'on en parle depuis tout à l'heure. Le thème du donjon sous-marin, du sanctuaire sous-marin visité en fin de jeu. Donc c'est dans l'Antiquité, hein, parce que c'est à plusieurs époques différentes. Là on est à 12 000 avant Jésus-Christ, même s'il n'y a pas Jésus-Christ dans le jeu, mais 12 000 BC. Donc c'est alors je vais pas vous raconter la suite de l'histoire, mais pour vous donner un petit indice, c'est un temple qui me rappelle un petit peu un temple dans Secret of Mana, qui sort de l'eau après. Enfin bon, je vais pas raconter la suite. En tout cas, donc, le thème du sanctuaire sous-marin Undersea Palace. Et voilà pour le thème d'Undersea Palace hein, de Chrono Trigger. Victor, tu voulais rajouter quelque chose sur le compositeur de la musique, Yasunori Mitsuda?
Que beaucoup de gens ici connaissent parce que c'est quand même un monstre de la musique de jeux vidéo. Et alors, ce petit gars, il était tout jeune à l'époque quand il bossait chez Square. Et il a juste menacé ses patrons de quitter la boîte si il lui accordait pas la BO de Chrono Trigger.
Donc, rien que ça, quoi.
Légèrement gonflé.
On pose les couilles sur la table, tranquille.
Voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, les mecs ont dit oui, et ils lui ont quand même mis un certain Nobuo Uematsu à la supervision, qui est quand même pas un manche. Voilà, ça a donné une vidéo fantastique.
D'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas la musique de Chrono Trigger, ou même pour ceux qui la connaissent, allez sur mon blog, donc sur le Poulpi blog, j'ai mis un article il y a pas très très longtemps, où il y a un mec qui s'appelle De Mello, qui est américain, et qui s'est amusé à mettre les voix des morceaux de Jay-Z sur les musiques de Chrono Trigger remixées. C'est juste exceptionnel, ça vaut vraiment le détour. Donc voilà, c'est un article que j'ai posté, je crois, il y a une quinzaine de jours, hein, pour ceux que ça intéresse. Et vous écoutez maintenant en fond un RPG, voilà, beaucoup plus récent que Chrono Trigger. Là, on passe un petit peu sur les consoles actuelles, la console récente. Pandora's Tower, un des tout derniers RPG de la Wii. C'est pas vraiment un RPG, un des tout gros jeux, dernier gros jeu japonais de la Wii. Donc sorti en avril 2012 en France, et on entend donc le thème des halls, en fait des 12 tours qu'on doit visiter. Dans chacune des 12 tours, on entend ce thème. Qui a joué à Pandora's Tower là autour de cette table fixe?
Je l'ai commencé, ouais.
Moi je l'ai fini, et avec pas la meilleure fin d'ailleurs, j'avais des boules.
Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un gros d'ailleurs dans ce jeu, c'est de pas avoir une bonne fin qui va me plaire, ça me fait très peur.
Mais en fait, il faut le faire plusieurs fois. Voilà.
Ouais, c'est ça.
En le faisant une deuxième fois, t'es sûr d'avoir la bonne fin a priori. Moi je l'ai fait deux fois du coup, et c'est vrai que je me suis pas ennuyé les deux fois en plus.
Soit tu le fais une seule fois et tu farmes à mort, mais quand je dis tu farmes à mort, c'est tu farmes à mort, c'est-à-dire que tu passes pendant 50 heures. Quoi,
D'accord.
Et sinon, soit tu le fais normalement et t'as pas la meilleure fin, ça dépend ce que tu as. Tu peux en avoir, vu qu'il y en a 5, je crois.
Ouais, il y en a 5, la première est vraiment pourrie.
La première, elle est horrible.
La première est juste horrible, même la deuxième est juste horrible.
Et pourrie dans le sens c'est nul ou dans le sens c'est très triste.
Dans le sens t'as envie de te suicider d'avoir fait un jeu et pour que la fin soit ça quoi.
Ouais, dans le genre c'est super triste.
Ça me déprime, ça me rend très triste. Donc j'ose pas imaginer ce qui pourrait lui arriver.
Non, mais c'est un super jeu et les musiques défoncent quoi aussi.
Alors pour en ce qui concerne les musiques justement, c'est une BO qui est constituée de vieux morceaux de musique classique en fait. Réarrangé par Yuichi Hirose et Takayuki Kobara. Et en l'occurrence, le thème qu'on écoute en fond, là, le hall, donc le thème des halls des tours, c'est une version épurée et surtout beaucoup plus sombre d'une pièce du compositeur tchèque Bedřich Smetana, qui date du 19e siècle. Alors, je vais pas vous donner le titre, parce que rien que le premier mot, c'est juste un Z. Bon, je sais pas comment ça se prononce.
Il y a trop de consonnes dans ce mot.
C'est ça. Z Tchekis Luhahaju, ou un truc comme ça. Bon, bref. Je vais pas, voilà. La prononciation, je la laisse au tchèque.
Mais je crois qu'il y a des morceaux de Verdi aussi, comme les thèmes, pour les thèmes de boss, un truc du genre.
Il y a des morceaux de Verdi, ouais, pour les thèmes de boss. C'est un morceau de, je sais plus. Mais voilà, bon, il y a beaucoup de morceaux de musique classique, effectivement. Et donc, pour en ce qui concerne donc ce morceau de Bedřich Smetana, c'est plus ou moins apparemment une ode à sa terre et à son peuple. Donc, ça a rien à voir avec son utilisation dans Pandora's Tower, qui est une histoire d'amour super sombre. Donc, voilà, Pandora's Tower, donc un très bon jeu, on l'a dit, et on va diffuser maintenant une musique de Final Fantasy VIII, parce qu'à chaque podcast, son petit Final Fantasy. On a fait le 12, on a fait le, je sais plus d'ailleurs.
On a fait le 6, non ?
On a fait le 12, le 6, oui, exact. Et on a fait le 13-2.
On a fait, là, c'est ça.
On a quand même réussi à faire le 13-2 à un moment. La et donc, Final Fantasy VIII.
Nous ferons un podcast sur la J-pop avec l'intro de FF10-2.
Il n'y a pas du tout de rancœur vis-à-vis de Final Fantasy dans cette phrase. Donc, Final Fantasy VIII, on va vous diffuser un morceau qui s'appelle Find Your Way et Snake est, je pense, le mieux placé de très loin d'entre nous pour en parler.
Donc Find Your Way de Final Fantasy VIII, c'est quasiment le morceau qui m'a donné le sujet de ce podcast, puisque je pense que c'est mon morceau préféré de tout le jeu. Chose assez curieuse puisque c'est vraiment une musique de donjon, elle est là pour installer une ambiance avec ce morceau qui est vraiment assez lent, contemplatif et très mystérieux en même temps. Vraiment ce que j'aime beaucoup dans ce morceau, c'est vraiment Find Your Way, une musique qui t'incite à l'exploration par son rythme, mais tu sais, une exploration non pas un peu violente et speed, mais vraiment une exploration calme, réfléchie, où on prend tranquillement le temps de visiter les pièces les unes après les autres. D'ailleurs, le morceau, on le rencontre la première fois quand on va chercher la GeForce Taurus, qui se trouve dans un donjon assez particulier, puisqu'à chaque fois que l'on arrive à un croisement, la caméra se place derrière notre personnage, de quelque direction où l'on arrive. Donc en fait, on est immédiatement perdu, puisque
ah oui, c'est un enfer, quand on ça, passe, voilà.
Quand, par exemple, si à ton premier croisement tu décides de partir à gauche et que tu fais demi-tour immédiatement parce que tu veux changer d'idée, tu vas te retrouver avec la caméra dans le dos à nouveau. La direction, enfin l'endroit dans lequel tu venais en fait est redevenu la droite et n'est plus face à toi. Donc c'est toute une histoire d'orientation comme ça. Et tu as vraiment cette musique qui t'accompagne, à savoir Find Your Way, donc vraiment trouve ton chemin. C'est vraiment la musique qui même je dirais te trolle gentiment puisqu'elle te dit voilà, tu te trouves dans ce donjon là, on fait exprès de te perdre, on fait exprès de te déboussoler, alors maintenant trouve ta route. Et je trouve que c'est une parfaite musique de donjon, sans combat, sans fureur, uniquement juste ce qu'il faut pour nous accompagner, nous angoisser un peu, pour nous perdre un peu plus.
Ah, je crois que tu l'as suffisamment bien vendu pour qu'on se permette maintenant de l'écouter tous ensemble et avec grand plaisir, donc la musique de Final Fantasy VIII, Find Your Way. Thank you. Voilà, Find Your Way, la musique d'FF8. Moi, je trouve dans cette musique qu'il y a le piano comme ça, qu'il y a un espèce de petit écho qui sonne très très loin et qui donne effectivement, je trouve, ce sentiment de un petit peu de pas de découverte, mais où on sent un petit peu perdu, on cherche un peu d'où ça vient.
Tout à fait, non, mais c'est ça, c'est exactement ça.
Donc, et on va passer à la troisième et dernière partie de ce podcast. Après les Zelda, après les Japs de manière générale, on va passer au donjon à l'américaine, désormais au dungeon crawler un peu plus pur et dur. Pas que. Là, en tout cas, on écoute en fond une musique de Might and Magic 7, de son nom complet Might and Magic 7 pour le sang et l'honneur, sorti sur PC en 99. Un morceau qui s'appelle Dungeon Exploration, donjon exploration, sans l'accent. qui connaît Might and Magic autour de cette assemblée?
Bah, deux noms seulement, mais.
Voilà, on connaît deux noms.
Au moins, ça va être vite vu. Une musique de Paul Romero, très ambiante aussi, très classique.
Bah, ça tranche beaucoup avec les musiques japonaises.
C'est typiquement la musique que tu mettrais pour une partie de Donjons et Dragons, un jeu de rôle papier avec des potes. Quelque chose d'assez ambiance, c'est quelque chose qu'on trouve en plus avec les musiques occidentales qui sont vraiment les filles du jeu de rôle papier.
Ouais, c'est ça.
Qui vont vraiment nous donner des musiques beaucoup plus ambiantes, un peu moins colorées que ce qu'on a pu avoir tout à l'heure avec les musiques japonaises au niveau des donjons. Quelque chose qui va beaucoup plus porter sur l'ambiance et sur un fond plus discret, je dirais.
Bah, la différence, c'est surtout que la plupart des musiques de donjons ou des dungeon crawlers occidentaux, c'est que généralement, c'est beaucoup plus sombre. Puis en plus, c'est beaucoup plus. Comme tu disais, c'est beaucoup plus ambiant. Et généralement, t'as des notes qui durent. Elles sont tirées sur des plages, mais qui sont immenses. Et généralement, c'est. Contrairement aux musiques de RPG Jap, ça s'écoute beaucoup moins en dehors du jeu, en fait.
Donc, sauf si tu es dépressif. De quoi?
Je dis sauf si tu es dépressif.
Histoire de bien faire part à la famille de France, c'est clair que t'écoutes ça en boucle.
C'est ça. Hein.
Voilà, donc on va essayer de prouver ce qu'on est en train de dire avec la musique qu'on va diffuser tout de suite, qui est une musique de Dungeon Master 2, The Legend of Skullkeep. Un jeu sorti sur PC et sur Amiga en 93 au Japon, puis en 95 dans le reste du monde. Un morceau qui s'appelle The Coming of New Hope. J'imagine, pareil, que personne ne peut en parler ici.
En effet.
Disons, oui, voilà, j'ai pas fait le jeu, mais c'est un jeu qui me rappelle, d'après ce que j'en ai vu, qui me rappelle un jeu sur NES qui s'appelait Sword and Serpents, qui était sorti, alors je serais incapable de te donner.
Ah oui, ouais.
Et là, pareil, c'est un jeu vraiment où tu as l'écran de jeu lui-même qui est un petit carré absolument minuscule dans un coin de ta télévision et tout le reste est occupé par le HUD du jeu. Tu as toujours, non mais c'est totalement ça quoi. Tu as toute la moitié inférieure du jeu qui est prise par les barres de vie de tes personnages qui sont par convention toujours 4 dans ce genre de jeu, et avec vraiment aussi sur le côté droit le plus souvent un platasse d'informations, de sortilèges. C'est un truc d'ailleurs qu'il y avait sur Might and Magic, vraiment le dungeon crawler, c'est-à-dire le jeu qui essaye de reprendre l'ergonomie, enfin du moins qui essaye de retranscrire l'ergonomie du jeu de rôle papier sur l'écran.
C'est ça, ouais. Je pense que le dungeon crawler, ça fait partie des jeux plus arides visuellement, je crois que tu peux pas faire.
Ça, voilà. Si, l'aventure textuelle. Là, t'es au top du top, là. C'est...
Ah ouais, non, mais c'est très très violent, quand même. C'est-à-dire que si t'es pas fan de jeux de rôle papier, c'est même pas la peine, quoi.
Voilà, puisque un dungeon crawler, je sais que sur un Sword and Serpent, par exemple, tu es quasiment obligé, même si la carte est dessinée au fur et à mesure, là aussi sur un petit carré de ton écran de télé, il est plus que conseillé de prendre des feuilles de papier à carreaux, avec des petits carreaux, et à chaque pas que tu fais, de compter un carreau, et ainsi de suite, de tracer le donjon au fur et à mesure, donjons qui sont bien évidemment créés aléatoirement par le jeu, et qui te permettent de sauvegarder, c'est typiquement le genre de jeu où tu peux sauvegarder qu'une fois un étage terminé.
Donc en fait, c'est même pas, tu disais tout à l'heure, c'est même pas une obligation, c'est même le principe du jeu, parce que, enfin, moi j'ai acheté, il y a pas longtemps, Etrian Odyssey sur DS, qui est un RPG, un dungeon RPG japonais, ouais, justement, où le principe, ils te le vendent comme ça, c'est fais des plans de donjon. C'est-à-dire que t'es dans un labyrinthe, sur l'écran tactile, c'est tout ce qui te sert à faire ton plan, et le but du jeu, c'est de faire ton plan de donjon, quoi. C'est particulier, il y a des gens qui cliquent dessus. Hein.
Non, mais c'est pas participatif, on casse le quatrième mur.
Ouais, c'est ça.
On va peut-être passer donc à la diffusion maintenant de cette musique de Dungeon Master 2, donc cette petite ambiance à la flûte légèrement médiévale. Dungeon Master 2, The Coming of New Hope. Vous écoutez toujours Original Soundbloggers podcast sur les musiques de donjons. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité Snake in the Box, qui a peut-être joué au jeu qu'on entend actuellement en fond, The Witcher, le thème de donjon de The Witcher. Tu as joué, Snake?
Non, malheureusement, je n'y ai pas joué. J'ai juste lu les bouquins, ça oui, que je me suis procuré il y a pas longtemps et qui étaient, ma foi, extrêmement intéressants. Mais je n'ai pas encore eu la chance de m'essayer The Witcher, puisque je n'avais pas, d'ailleurs, tout simplement la bécane qui allait pour pouvoir le faire tourner. Donc ce n'est que partie remise.
Par contre, moi, je suis en plein dedans en ce moment. Donc, moi, je trouve ça plutôt cool. C'est un bon petit RPG à l'occidental. Par contre, il est très, très cloisonné. C'est-à-dire qu'on évolue de zone en zone. Enfin, chaque zone, c'est un niveau, en gros, qu'on doit explorer. On parle au PNJ, on résout des quêtes. D'ailleurs, ces quêtes sont, c'est pas du tout des quêtes FedEx type MMO ou certains jeux japonais. Il y a des enquêtes. C'est vraiment intéressant, je trouve. Le scénario est également plutôt cool à suivre. Par contre, il y a un truc que je regarde vraiment, c'est la mise en scène qui est complètement à la ramasse. Je sais pas si vous avez vu. D'ailleurs, il y a. Je crois que c'est Ladanet qui avait posté sur Gameblog un post qui s'appelait, je crois, Les caméramans bourrés de The Witcher.
D'accord.
Donc, déjà, rien qu'avec le titre, tu t'imagines.
Genre, ah oui, j'ai vu ça.
Il y a des trucs vraiment aberrants, genre du style pendant une conversation, on voit juste les pieds du personnage. Enfin, on se demande comment ils ont fait ça, quoi.
C'est la mise en abîme dramatique.
Parce que la musique est bien dramatique aussi, d'ailleurs, très très ambiante.
Et là on troll, mais en fait c'est surtout une super série The Witcher, parce qu'après il y a eu le 2 et il y aura bientôt le 3, et enfin moi je trouve que c'est une des meilleures DA de l'univers du jeu de rôle occidental dernièrement. La BO défonce aussi, ça a été fait par deux mecs au nom imprononçable, il y a Adam Skorupa et Pavel Blazak, un polonais quoi. Et c'est des morceaux, c'est pareil, c'est très ambiant. Et puis, moi j'aime plutôt les morceaux calmes dans cette OST qui ont des accents nordiques, celtiques, qui sont vachement agréables. Voilà.
Ouais, justement, en parlant de gros RPG occidentaux et de grosses directions artistiques, on va parler maintenant d'un jeu qui a été fait par le lead designer de Morrowind et d'Oblivion, rien que ça. Donc là, en termes de référence de RPG occidentaux, ça se pose là. Un jeu qui s'appelle en France Les Royaumes d'Amalur, donc Kingdom of Amalur, sorti en 2012 sur PS3, Xbox 360 et sur PC. On va écouter un morceau qui s'appelle Mines and Caves. Qui a joué à Kingdom of Amalur?
Pas moi.
Bah, c'est un jeu que j'avais beaucoup attendu à l'époque, notamment pour les noms derrière le projet. Donc, comme tu l'as dit, le lead designer des Elder Scrolls. Et puis je crois qu'il y avait un écrivain, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais assez connu aussi. Mais j'avais testé la démo et j'avais été assez refroidi. Enfin, j'ai trouvé, c'était des quêtes un peu à la con, des quêtes type MMO justement. Mmh. Puis j'ai pas trop accroché au design, donc.
Alors, c'est d'autant plus incroyable que, effectivement, tu parles de grands noms. Le mec qui a fait la musique, c'est quand même Grant Kirkhope. Donc, c'est le type qui a bossé chez Rare pendant des années et des années, qui a fait les musiques, allez, pêle-mêle, de GoldenEye, de Perfect Dark, de Banjo et Kazooie, de Star Fox Adventures, de Donkey Kong 64, et en a fait d'autres.
Donc, ah ouais, c'est quand même
un très 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 gros nom. Très gros nom de la musique, mais c'est vrai qu'on l'attend pas forcément dans ce style-là, fatalement. Donc, je vais vous laisser vous faire une petite idée de ce qu'il arrive à faire pour des RPG occidentaux. Donc, dans Kingdom of Amalur, en l'occurrence, Mines and Caves. Mines and Caves de Kingdom of Amalur, donc musique par Grant Kirkhope. Victor avait un truc super super intense à nous dire au sujet de Kingdom of Amalur.
Alors, la boîte a crevé.
Sympa. Voilà.
Non, en fait, la boîte a crevé parce que ces mecs-là, je sais pas ce qu'ils ont fait, et à peu près personne sait ce qu'ils ont fait. Apparemment, c'est des grosses quiches en comptabilité, en gestion d'argent. Leur jeu c'est pas trop mal vendu. Le truc c'est que ils ont fait de la merde quoi, et ils se sont flingués tout seuls. Ce qui fait qu'on sait pas vraiment ce qu'ils ont fait de leurs sous, mais ils sont liquidés tout seuls et ils font plus rien.
Jusqu'à la prochaine campagne Kickstarter.
Non ouais non mais c'est super les boîtes comme ça.
Ouais c'est con parce que Amalur c'était censé être le premier jeu d'une nouvelle licence.
Voilà raté.
C'était le dernier jeu d'une nouvelle licence au final.
Voilà.
Donc on va terminer ce podcast désormais les amis, il est déjà temps de se quitter. Alors on écoute actuellement en fond une musique de Fallout 3 qui nous a été très difficile de choisir pour une raison très simple, c'est que toutes les musiques portent le même nom. Ça s'appelle toutes Donjon. Donc on écoute une musique de Donjon. Donc de Fallout 3, action RPG de Bethesda sorti en 2008. Une musique composée par Inon Zur, américano-israélien. Il a 47 ans, il a commencé à apprendre la composition à 10 ans. Donc ça commence à faire un petit moment. Et c'est un mec qui a bossé sur un nombre de titres de jeux.
Ah ouais, c'est monstrueux.
Genre, alors pour en citer quelques-uns, je vais pas tous les faire parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Soul Calibur 5. Dragon Age Origins, Prince of Persia les deux royaumes, Crysis, Icewind Dale, Siberia 2, etc. Warhammer 40,000. Et il a aussi bossé sur des séries pour enfants comme Digimon et Power Rangers.
Ouais.
Étonnant.
Ouais. Il est derrière la musique des Digimon.
De musique,
Donc Fallout 3, je crois qu'Oning, tu as joué à Fallout 3, non?
Oui, Fallout 3, c'est mon tout premier Fallout. Donc Fallout 3 était assez décrié à l'époque. Il était beaucoup plus accessible que les deux premiers. Même si moi, je l'avais vraiment adoré. Surtout en ce qui concerne l'ambiance post-apocalyptique qui était très réussie. On se sent vraiment mal dans ce monde complètement dévasté, avec des villes défoncées, des habitants irradiés. Moi, j'ai vraiment bien aimé cet aspect du jeu.
Ça a l'air cool, Lido.
Ouais, après, au niveau du système de jeu, c'est du Oblivion, mais dans un monde post-apo. Étant fan d'Oblivion, j'étais aux anges. Donc voilà, pour ce qui est des musiques, elles tranchent aussi avec celles des deux premiers épisodes. Donc on a le droit à des pistes plus mélancoliques avec du violon, du piano. Les deux premiers épisodes, c'était surtout des musiques beaucoup plus d'ambiance, avec des bruitages, c'était beaucoup plus stressant. Et pour les musiques de donjon, ils sont revenus au contraire aux musiques d'ambiance plus stressantes, comme vous pouvez l'entendre avec la musique donjon, pour bien son. Et voilà, donc c'est des musiques assez angoissantes.
Écoutez, je crois que sur ce, on va laisser passer l'angoisse et puis on va se dire au revoir. Donc c'est terminé pour ce troisième podcast d'OSB. On revient a priori, si tout se passe bien, je dis bien si tout se passe bien, dans 3 semaines, à la fin du mois, pour le 4e épisode. Merci beaucoup encore une fois Onink et Mr. RockPsy95 d'être là tous les mois maintenant pour OSB. Merci énormément à notre invité Snake in the Box qui s'est rendu aussi très disponible pour nous. Merci beaucoup Snake. Ça a
merci
été.
À vous surtout de m'avoir invité. C'est très gentil d'avoir pensé à moi. Et
voilà, donc ça s'est bien passé, ça va?
Ah oui, impeccable.
J'espère que ça vous poussera à nous poser des candidatures pour être invité, vous aussi, si c'est impeccable. Voilà, on mord pas, on est gentil, on offre même des gâteaux.
Non. Voilà. Bon, là ça va être un peu dur à distance, mais je sais que le cœur y est.
Par contre, la poste.
Donc, et merci aussi, surtout, encore une fois, à vous qui nous avez écoutés, parfois qui nous écoutez depuis le premier épisode, ça nous fait chaud au cœur, on espère que ça durera encore longtemps. Et on va se quitter avec un titre de Medieval, jeu d'aventure sorti sur PlayStation en 1998. Un jeu qualifié souvent de comédie d'horreur gothique, enfin, un petit peu, moi qui me fait penser à l'étrange Noël Monsieur Jack, du coup.
Oui, totalement.
D'ailleurs, le game designer leur a clairement demandé au mec de faire du Danny Elfman dans la musique, pour être justement dans cette veine, voilà, Beetlejuice, Étrange Noël de Monsieur Jack. Et ça se ressent assez bien sur le titre qu'on va donc entendre pour terminer ce podcast, qui s'appelle The Haunted Ruins, donc exploration des ruines de Medieval pour terminer sur les donjons. On se dit à la fin du mois, donc pour le 4e podcast, et merci encore de nous avoir écoutés. Ciao, ciao.
Bye.
Ciao.
Salut.